Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un troisième extrait et dernier extrait du livre de Lucien Malson, Les enfants sauvages. Nous commencerons un nouveau roman la semaine prochaine. J'étais dans l'intention de récapituler ici tous les faits disséminés dans cet ouvrage, mais j'ai pensé que quelque force qu'ils pussent acquérir par leur réunion, elle n'équivaudrait jamais à celle de ce dernier résultat. Je le consigne, pour ainsi dire, nu et dépouillé de toute réflexion, pour qu'il puisse marquer d'une manière plus frappante l'époque où nous sommes parvenus et devenir garant de celle où il nous faut arriver. En attendant, on peut toujours conclure, de la plupart de mes observations, de celles surtout qu'on a puisées dans ces deux dernières vues, que l'enfant, connu sous le nom de sauvage de l'Aveyron, est doué du libre exercice de tous ses sens, qu'il donne des preuves continuelles d'attention, de réminiscence, de mémoire, qu'il peut comparer, discerner et juger, appliquer enfin toutes les facultés de son entendement à des objectifs relatifs à son instruction. On remarquera, comme un point essentiel, que ces changements heureux sont survenus dans le court espace de 9 mois chez un sujet que l'on croyait incapable d'attention, et l'on en conclura que son éducation est possible, si elle n'est pas même déjà garantie par ses premiers succès, indépendamment de ceux qu'on doit nécessairement espérer du temps, qui, dans sa marche invariable, semble donner à l'enfance, en force et en développement, tout ce qu'il ôte à l'homme au déclin de la vie. Et cependant, quelles conséquences majeures, relatives à l'histoire philosophique et naturelle de l'homme, découlent déjà de cette première série d'observations ? Qu'on les rassemble, qu'on les classe avec méthode, qu'on les réduise à leur juste valeur, et l'on y verra la preuve matérielle des plus importantes vérités. De ces vérités dont Locke et Condillac ne durent la découverte qu'à la force de leur génie et à la profondeur de leur méditation. Il m'a paru du moins qu'on pourrait en déduire, premièrement, que l'homme est inférieur à un grand nombre d'animaux dans le pur état de nature, état de nullité et de barbarie, qu'on a sans fondement revêtu des couleurs les plus séduisantes, état dans lequel l'individu, privé des facultés caractéristiques de son espèce, traîne misérablement, sans intelligence, comme sans affection, une vie précaire et réduite aux seules fonctions de l'animalité. Deuxièmement, que cette supériorité morale que l'on dit être naturelle à l'homme n'est que le résultat de la civilisation qui l'élève au-dessus des autres animaux par un grand et puissant mobile. Ce mobile est la sensibilité prédominante de son espèce, propriété essentielle d'où découlent les facultés imitatives et cette tendance continuelle qui le force à chercher dans de nouveaux besoins de nouvelles sensations. Troisièmement, que cette force imitative destinée à l'éducation de ses organes et surtout à l'apprentissage de la parole, très énergique et très active dans les premières années de la vie, s'affaiblit rapidement par les progrès de l'âge, l'isolement et toutes les causes qui tendent à émousser la sensibilité nerveuse. D'où il résulte que l'articulation des sons, qui est sans contredit de tous les effets de l'imitation le résultat le plus inconcevable et le plus utile, doit éprouver des obstacles sans nombre dans un âge qui n'est plus celui de la première enfance. Quatrièmement, qu'il existe chez le sauvage le plus isolé, comme chez le citadin élevé au plus haut point de la civilisation, un rapport constant entre leurs idées et leurs besoins, que la multiplicité toujours croissante de ceux-ci chez les peuples policés doit être considérée comme un grand moyen de développement de l'esprit humain, de sorte qu'on peut établir, comme proposition générale, que toutes les causes accidentelles, locales ou politiques, qui tendent à augmenter ou à diminuer le nombre de nos besoins, contribuent nécessairement à étendre et à rétrécir la sphère de nos connaissances et le domaine de la science, des beaux-arts et de l'industrie sociale. Cinquièmement, que dans l'état actuel de nos connaissances physiologiques, la marche de l'enseignement peut et doit s'éclairer des lumières de la médecine moderne qui, de toutes les sciences naturelles, peut coopérer le plus puissamment au perfectionnement de l'espèce humaine en appréciant les anomalies organiques et intellectuelles de chaque individu et déterminant par là ce que l'éducation doit faire pour lui, ce que la société peut en attendre. Il est encore quelques considérations, non moins importantes, que je me proposais d'associer à ces premières données, mais les développements qu'elles eussent exigés aurait outrepassé les bornes et le dessin de cet opuscule. Je me suis d'ailleurs aperçu, en comparant mes observations avec la doctrine de quelques-uns de nos métaphysiciens, que je me trouvais sur certains points intéressants en désaccord avec eux. Je dois attendre en conséquence des faits plus nombreux et par là même plus concluants. Un motif à peu près analogue ne m'a pas permis, en parlant de tous les développements du jeune Victor, de m'appesantir sur l'époque de sa puberté, qui s'est prononcée depuis quelques décades d'une manière presque explosive et dont les premiers phénomènes jettent beaucoup de doutes sur l'origine de certaines affections du cœur que nous regardons comme très naturelles. J'ai dû, de même ici, ne pas me presser de juger et de conclure, persuadée qu'on ne peut trop laisser mûrir par le temps et confirmer par des observations ultérieures toute considération qui tendent à détruire des préjugés, peut-être respectables, et les plus douces comme les plus consolantes illusions de la vie sociale. Monseigneur, vous parlez du sauvage de l'Aveyron. C'est reproduire un nom qui n'inspire plus maintenant aucune espèce d'intérêt. C'est rappeler un être oublié par ceux qui n'ont fait que le voir et dédaigné par ceux qui ont cru le juger. Pour moi, qui me suis borné jusqu'à présent à l'observer et à lui prodiguer mes soins, fort indifférent à l'oubli des uns et au dédain des autres, étayé sur 5 années d'observation journalière, je viens faire à votre Excellence le rapport qu'elle attend de moi, lui raconter ce que j'ai vu et ce que j'ai fait, exposer l'état actuel de ce jeune homme, les voies longues et difficiles par lesquelles il y a été conduit et les obstacles qu'il a franchis comme ceux qu'il n'a pas pu surmonter. Si tous ces détails, Monseigneur, vous paraissaient peu dignes de votre attention et bien au-dessus de l'idée avantageuse que vous en aviez conçue, votre Excellence voudrait bien, pour mon excuse, être entièrement persuadée que sans l'ordre formel que j'ai reçu d'elle, j'eusse enveloppé d'un profond silence et condamné à un éternel oubli, des travaux dont le résultat offre bien moins l'histoire des progrès de l'élève que celle des non-succès de l'instituteur. Mais en me jugeant aussi moi-même avec impartialité, je crois néanmoins qu'abstraction faite du but auquel je visais, dans la tâche que je me suis volontairement imposée, et considérant cette entreprise sous un point de vue plus général, vous ne verrez pas sans quelque satisfaction, Monseigneur, dans les diverses expériences que j'ai tentées, dans les nombreuses observations que j'ai recueillies, une collection de faits propres à éclairer l'histoire de la philosophie médicale, l'étude de l'homme incivilisé et la direction de certaines éducations privées. Pour accepter l'état actuel du jeune sauvage de l'Aveyron, il serait nécessaire de rappeler son état passé. Ce jeune homme, pour être jugé sainement, ne doit être comparé qu'à lui-même. Rapproché d'un adolescent du même âge, il n'est plus qu'un être disgracié, rebut de la nature, comme il le fut de la société. Mais si l'on se borne aux deux termes de comparaison qu'offrent l'état passé et l'état présent du jeune Victor, on est étonné de l'espace immense qui les sépare, Et l'on peut mettre en question, si Victor ne diffère pas plus du sauvage de l'Aveyron arrivant à Paris qu'il ne diffère des autres individus de son âge et de son espèce. Je ne vous retracerai pas, Monseigneur, le tableau hideux de cet homme animal tel qu'il était au sortir de ses forêts, dans un opuscule que j'ai fait imprimer il y a quelques années et dont j'ai l'honneur de vous offrir un exemplaire, j'ai dépeint cet être extraordinaire d'après les traits mêmes que je puisais dans un rapport fait par un médecin célèbre à une société savante. Je rappellerai seulement ici que la commission dont ce médecin fut le rapporteur, après un long examen et des tentatives nombreuses, ne put parvenir à fixer un moment l'attention de cet enfant et chercha en vain à démêler, dans ses actions et ses déterminations, quelque acte d'intelligence ou quelque témoignage de sensibilité. Étranger à cette opération réfléchie qui est la première source de nos idées, il ne donnait de l'attention à aucun objet, parce qu'aucun objet ne faisait sur ses sens nulle impression durable. Ses yeux voyaient et ne regardaient point. Ses oreilles entendaient et n'écoutaient jamais. Et l'organe du toucher, restreint à l'opération mécanique de l'appréhension des corps, n'avait jamais été employé à en constater les formes et l'existence. Tel était enfin l'état des facultés physiques et morales de cet enfant, qu'il se trouvait placé non seulement au dernier rang de son espèce, mais encore au dernier échelon des animaux, et qu'on peut dire en quelque sorte qu'il ne différait d'une plante qu'en ce qu'il avait de plus qu'elle, la faculté de se mouvoir et de crier. Entre cette existence, moins qu'animale, et l'état actuel du jeune Victor, il y a une différence prodigieuse et qui paraît bien plus tranchée si, supprimant tout intermédiaire, je me bornais à rapprocher vivement les deux termes de la comparaison. Mais persuadé qu'il s'agit bien moins de faire contraster ce tableau que de le rendre et fidèle et complet, j'apporterai tous mes soins à exposer succinctement les changements survenus dans l'état du jeune sauvage. Et pour mettre plus d'ordre et d'intérêt dans l'énumération des faits, je les rapporterai en trois séries distinctes, relatives au triple développement des fonctions des sens, des fonctions intellectuelles et des facultés affectives. Nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier. 9, 10, 11, 12, elles seront toutes rouges.
Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, peut-être vos suggestions aussi, pourquoi pas, à propos de ma chronique, en m'écrivant à ladiseusedemots@gmail.com. ladiseusedemots tout attaché @gmail.com. À bientôt.